Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi. Une émission préparée ce matin par Mélanie Chalandon, mais aussi Samuel Bernard, Marguerite Caton, Maïlys André, réalisée par Benjamin Hu et mise en onde ce matin par Alexandre Dang. Troisième volet donc de notre série consacrée à cet inventaire avant les élections européennes de mai prochain. Après avoir fait un bilan de l'action du Parlement de Strasbourg et puis un bilan de la monnaie unique 20 ans après son entrée en vigueur, place aujourd'hui à un autre pilier de la construction européenne, la libre circulation qui permet aux citoyens d'aller d'un pays à l'autre pour travailler. Alors à qui profite la libre circulation? C'est notre sujet ce matin dans Culture Monde.
C'est un symbole de la volonté des gouvernements et notamment du nôtre de faire l'Europe des citoyens. Il est certain que c'est exaspérant de s'arrêter aux frontières pour présenter des papiers, etc. Et tout ce qui va rendre plus facile, plus rapide le franchissement des frontières est, je crois, dans la vie courante, un avantage non négligeable.
On a été très bien installés, on a été très bien aidés. Ici, à l'hôpital, on est très bien équipés, on peut continuer la formation qu'on a fait en Roumanie, parce qu'on a été bien formés en Roumanie, mais on doit continuer ça en France aussi. Et c'est bien. Moi, je suis contente.
Je suis certain, et les statistiques le montreront, et elles le montrent déjà, que les Polonais ne prennent pas le travail des Néerlandais. Ce n'est absolument pas le problème, c'est même tout l'inverse. Quand ces Polonais quitteront la Hollande, eh bien l'économie néerlandaise aura de gros problèmes, car qui fera leur travail ensuite?
L'Europe est un espace de circulation unique au monde, où les citoyens sont libres de s'installer, de résider, d'étudier, de travailler dans n'importe quel État membre de l'Union. Et de fait, actuellement, ce sont 17 millions d'Européens qui travaillent dans un État autre que le leur, plus du double qu'il y a 10 ans. Mais à qui profite vraiment cette liberté de circulation? Derrière la liberté de circulation se cache une réalité peut-être moins reluisante, celle des chauffeurs routiers et autres travailleurs détachés mis en concurrence à travers toute l'Europe, celle de jeunes diplômés grecs ou italiens, n'ayant d'autres perspectives que l'immigration vers l'Allemagne ou la Suède, celle encore des ouvriers polonais, peut-être bientôt forcés de quitter le Royaume-Uni pour cause de Brexit. Celle enfin des médecins roumains désertant leur pays pour combler les déserts médicaux français ou allemands. Bref, celle de la fuite des cerveaux et du dumping social. 24 ans après l'entrée en vigueur de l'espace Schengen ayant aboli les contrôles aux frontières, 15 ans après l'intégration des 10 pays de l'Europe centrale, quel bilan peut-on faire de la libre circulation en Europe? Opportunité et ouverture pour les travailleurs ou concurrence généralisée? Quelle régulation aussi de cet espace de mobilité par les instances européennes et quel avenir pour cette libre circulation remise en cause par des gouvernements de moins en moins enclins à accueillir des travailleurs étrangers? Faut-il s'attendre à un retour aux frontières intérieures de l'espace Schengen? Un certain nombre de questions sur lesquelles nous allons nous pencher ce matin. Pour ce faire, deux invités. D'abord, en duplex de Valence, Aurore Flippot, bonjour.
Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes sociologue, chercheuse associée au laboratoire Pacte de Grenoble et puis auteur de cet ouvrage, Génération Low Cost, itinéraire de jeunes migrants intra-européens. On aura l'occasion de l'évoquer avec vous. C'était aux presses universitaires de Rennes. Avec nous ici en plateau à Paris, Elmohou Mouhoud, bonjour.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous ce matin. Vous êtes professeur d'économie à l'Université Paris-Dauphine, spécialiste de la mondialisation, des délocalisations, des migrations internationales. Vous évoquez tous ces sujets, notamment dans votre dernier ouvrage, L'immigration en France, qui était paru chez Fayard, sous-titré « Mythe et réalité ». Je vais commencer avec vous, Elmohou Mouhoud, et peut-être pas tout de suite sur la question des travailleurs, mais sur la question du retour du contrôle aux frontières intérieures que j'évoquais en toute fin d'introduction, parce qu'en octobre dernier, le gouvernement français a adressé à la Commission européenne sa décision de poursuivre les contrôles aux frontières intérieures jusqu'à avril 2019. Il faut rappeler qu'il y a 6 pays de l'Union qui, depuis 2015, ont réintroduit ces contrôles dans l'espace Schengen. C'est la France, l'Allemagne, l'Autriche, le Danemark, la Suède et la Norvège, utilisant des dérogations légales au principe de libre circulation dans cette zone. Ces pays justifiant ces mesures par à la fois la pression migratoire, mais aussi par des considérations sécuritaires, liées notamment à la menace terroriste, on le sait. Aujourd'hui, on assiste à un retour des contrôles à la frontière. Alors, c'est pas de manière systématique, mais c'est vrai qu'il y a des dérogations aux règles de libre circulation. Est-ce que vous y voyez un danger de voir ces contrôles se multiplier? Est-ce que les mesures dérogatoires vont progressivement devenir la norme? Et est-ce qu'enfin, on est en train de facto d'assister à la mort de l'espace Schengen?
Oui, c'est... Il y a un risque tout de même que l'on ait une désintégration de quelque chose qui s'est améliorée ces dernières années de manière inattendue, à savoir la mobilité du travail dans l'espace européen. L'Union européenne est réputée une union, une zone de libre-échange, une union douanière, de libre circulation des capitaux, mais avec une faible mobilité du travail depuis le début, par rapport par exemple à la zone que constituent les États-Unis, avec beaucoup de mobilité entre les États, les régions américaines. Il se trouve que la nouveauté, c'est que depuis la crise des subprimes de 2008, qui a frappé certains pays plus que d'autres, en particulier les pays d'Europe du Sud, on a eu un accroissement considérable de cette mobilité du travail sous différentes formes. Beaucoup d'Espagnols sont partis en Allemagne, comme vous l'avez dit dans votre présentation, beaucoup de Portugais également. En d'autres termes, face à un choc majeur de crise qu'ont connu certains pays, les migrations internes sont apparues de manière inattendue, je le disais, comme un facteur d'ajustement et qui facilite finalement le progrès de la croissance de l'ensemble de ces économies. Et pour des raisons extérieures, en particulier liées à la mauvaise manière dont les États européens ont géré la crise, ce que l'on a appelé la crise des réfugiés. En fait, il s'agit plutôt de la crise institutionnelle de la problématique de la coordination de l'accueil des demandeurs d'asile. À cause de la montée des populismes qu'on connaît aujourd'hui, évidemment, il y a une tentation extrêmement forte de revenir pour faire plaisir, bien entendu, à un électorat très 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 disons sensible sur ces questions d'immigration, eh bien on est dans ce que vous avez présenté comme un risque de remise en cause en effet de l'espace de libre circulation des travailleurs.
Mais
en fait on va ressembler jusqu'à
on
pourrait ressembler à l'ALENA, à l'accord de libre-échange nord-américain, ouais, dans lequel les capitaux circulent très librement mais le travail lui risque d'être maintenu effectivement dans les frontières séparées.
Vous pensez que c'est ça le risque, que finalement on mette un terme à la libre circulation, parce que vous avez rappelé, il y a la montée des populismes liée à cette crise migratoire qui en réalité est plutôt une crise de l'accueil, vous avez raison de le dire, mais de facto, on avait déjà assisté en 2014 à la montée en puissance de ces partis populistes, nationalistes, contre l'immigration, qui favorisent finalement le repli national. Jusqu'où est-ce que ces partis qui risquent d'à nouveau monter en puissance lors des prochaines élections de mai prochain, jusqu'où est-ce qu'ils peuvent justement remettre en cause ce principe de libre circulation qui est quand même un pilier de la construction européenne.
Tout à fait. Alors, évidemment, là, ça signifierait que, du point de vue institutionnel, on aille jusqu'à la rupture de ces piliers, ce qui n'est évidemment pas encore à l'ordre du jour. Cependant, les mesures auxquelles cèdent les gouvernements, certains gouvernements, en particulier dans ceux dont vous avez cité les noms récemment, peuvent effectivement arriver à freiner cette mobilité, à la rendre beaucoup plus compliquée au moment même où elle se développe.
Aurore Flipeau, votre vision sur ce retour du contrôle aux frontières, est-ce que ça vous semble être un vrai problème pour les travailleurs européens? Est-ce que réellement la libre circulation est remise en cause pour ces citoyens qui veulent s'installer dans d'autres pays, soit pour étudier, soit pour travailler? Ou est-ce que finalement, c'est pas vraiment eux de toute façon qui sont visés par ces contrôles aux frontières, on le sait bien, donc finalement ça ne change pas grand-chose, Aurore Flipeau?
Oui, alors effectivement, il faut bien faire la différence entre l'espace Schengen, qui est un espace, qui est un système de coopération policière et judiciaire avant tout, et qui a été construit comme ça, et la libre circulation du travail, qui est une disposition du traité sur l'Union européenne. Et donc c'est cette disposition qui autorise les citoyens européens à aller chercher du travail dans un autre État membre et de s'y établir. Par exemple, la Roumanie, la Bulgarie sont toujours pas dans l'espace Schengen. Pourtant, ils bénéficient de la mobilité du travail. Donc, il faut bien, en effet, différencier les deux dans la mesure où, si ce n'est pas la mobilité du travail qui est visée par ce mouvement de fermeture des frontières, la différence, ce sera qu'il faudra effectivement sortir son passeport à la frontière, mais ce sont deux choses différentes. Après, les populismes, effectivement, cela dit, critiquent aussi un peu les deux choses. Il y a évidemment beaucoup plus d'attention portée sur les frontières physiques, avec ce qu'on a appelé effectivement la crise des réfugiés, qui, là, je rejoins mon collègue, est tout à fait un problème plutôt d'accueil. Et la question de la mobilité du travail à l'intérieur de l'Union européenne, qui a aussi été le ferment de certains populismes, en particulier au Royaume-Uni.
Aurore Flipeau, peut-être avant de faire un état des lieux de cette mobilité intra-européenne à laquelle on va vraiment s'intéresser aujourd'hui, vous nous rappelez quand même en quelques mots les conditions qu'il faut remplir pour pouvoir s'installer dans un autre pays de l'Union européenne et pour pouvoir y travailler. Quand on est membre de l'espace Schengen, il n'y a absolument aucune condition, c'est la liberté la plus totale, ou est-ce que quand on regarde un peu les choses précisément, on n'est pas aussi libre que ça?
Il y a quelques conditions. Pour s'établir dans un autre pays, il faut y rechercher du travail et être en mesure, si on est visé par une procédure de remise en cause justement de ce droit à l'installation, de le prouver. On a le droit aussi d'y demeurer à l'issue d'un contrat de travail, mais là encore dans des conditions qui restent sous le contrôle quand même du pays d'accueil, dans la mesure où il y a des historiques de procédures en fait visant à expulser des citoyens européens dont on considère qu'ils ne sont pas là pour travailler.
Donc ça veut dire très concrètement que si on n'est pas en capacité de montrer qu'on a un travail ou qu'on cherche un travail activement, on peut être expulsé.
Alors, une autre disposition pour les étudiants et pour les retraités notamment, puisqu'il y a aussi beaucoup de migrations de retraités à l'intérieur de l'Union européenne. D'ailleurs, ceux-là sont souvent bien plus courtisés que les travailleurs par les gouvernements. C'est de montrer qu'on est capable de subvenir à ses propres besoins.
El Mohoud, si on regarde un peu aujourd'hui ce qu'il y a derrière la mobilité intra-européenne, entre 2004 et 2014, les chiffres nous disent qu'on a à peu près 7 millions d'Européens qui sont partis travailler dans un autre pays d'Europe. Est-ce que 2004, c'est pas tout à fait une date au hasard, hein, c'est le moment de l'élargissement à l'Est. Est-ce que je peux résumer les choses en disant qu'aujourd'hui, la mobilité intra-européenne, c'est essentiellement un mouvement depuis l'Europe de l'Est, l'Europe centrale, vers l'Europe de l'Ouest, et que tout ça s'est fait à la faveur de l'élargissement de 2004, ou est-ce que c'est résumé de façon trop caricaturale?
Non, c'est juste l'essentiel des flux, si vous voulez, quand nous avons eu une augmentation des flux avant les problématiques de demandeurs d'asile, hein, c'était effectivement, après la chute du mur de Berlin, l'arrivée massive de migrants en provenance des pays d'Europe centrale et orientale. C'est tout à fait juste. Et d'ailleurs, ces migrants qui provenaient des pays d'Europe centrale et orientale sont allés assez massivement dans des pays qui sont devenus des pays d'immigration après avoir été longtemps des pays d'émigration. Je pense à l'Espagne et au Portugal. On a à cette époque-là, par exemple, ce que l'on a appelé l'ukrainisation des flux migratoires, où des Ukrainiens et des Moldaves arrivaient massivement au Portugal ou en Espagne, même en acceptant d'être déclassés, pour espérer ensuite aller dans les pays du centre de l'Union européenne, c'est-à-dire le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne, qui en stock restent quand même les principaux pays d'accueil. À peu près 80% des migrants sont installés dans ces trois pays-là. Mais les flux, les dynamiques nouvelles ont reçu considérablement ces types de migrants. Alors maintenant, quand on rentre dans les détails de la mobilité, ensuite par exemple quand on regarde les mobilités temporaires du travail, les travailleurs détachés, les migrations temporaires, saisonnières, etc. Là, les choses sont beaucoup plus compliquées. Par exemple, si vous prenez en 2017 la Pologne et après les États-Unis, c'est le pays qui a reçu le plus de migrants temporaires.
Oui, donc ils ne veulent pas envoyer des travailleurs.
Oui, ils ne font pas qu'envoyer, loin de là. Ouais. Ils ont reçu à peu près 450 000 travailleurs en situation temporaire, et en particulier massivement d'Ukraine. Eux-mêmes ont eu des retours de Royaume-Uni et de l'Irlande suite à la crise qu'a subie, par exemple, l'Irlande. Donc 30% des Polonais sont revenus en Pologne. Les Espagnols et les Portugais, après la crise qu'ont subi ces pays, et après avoir longtemps beaucoup reçu d'immigrés pour accompagner leur processus de croissance, après la crise, ils ont envoyé leurs propres migrants.
Oui, donc,
on est dans une situation d'une complexification et même temps d'un approfondissement de cette mobilité du travail. Et c'est la raison pour laquelle moi je suis un tout petit peu, si vous voulez, inquiet par rapport à évidemment les deux phénomènes Schengen et libre circulation sont, du point de vue juridique, extrêmement différentes, mais n'empêche que le Brexit se justifie essentiellement, du point de vue de la montée des populismes, par la problématique de de l'accueil des Polonais en particulier, enfin de la présence des Polonais et non pas des extra-européens nécessairement.
Et si on reste sur la mobilité intra-européenne, c'est vrai qu'on peut schématiquement dire qu'on a eu en gros un gros mouvement des pays d'Europe centrale vers les pays d'Europe de l'Ouest, mais il faudrait pas oublier aussi, et vous le rappelez d'ailleurs en flippo dans votre livre, que la mobilité entre les pays fondateurs de l'Union européenne, elle s'est aussi beaucoup accentuée. Regardons un peu les motivations en flippo qu'il y a derrière, parce qu'on serait tenté de penser que cette immigration intra-européenne, elle est très essentiellement économique et qu'au fond, c'est la santé socio-économique des États membres qui conditionne les parcours migratoires. Et pourtant, vous dites, je vous cite, « Ni le niveau de chômage, la croissance, les niveaux de revenus ne parviennent à expliquer les différences d'intensité migratoire entre pays. » Donc ça veut dire que le motif économique ne suffit pas à expliquer ces migrations intra-européennes, Aurore Flippo ?
Oui, bien sûr. Il faut distinguer deux choses. Il y a une partie, comme on le disait au départ, ajustement donc des marchés du travail. Et là-dessus, je pense que mon collègue sera plus qualifié que moi pour vous expliquer exactement comment ça fonctionne et qui permet justement, comme on l'a vu avec la crise, de permettre à des personnes qui sont touchées par le chômage d'aller éventuellement chercher du travail dans un autre pays. Cela dit, si on recule la focale et qu'on compare les taux d'immigration, enfin l'ensemble des mobilités dans les différents pays européens, on voit bien que c'est pas simplement ça, c'est pas uniquement une question d'ajustement économique. Il y a beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte. Et notamment, on parlait tout à l'heure de système migratoire, c'est-à-dire de système aussi culturel qui va lier deux ou plusieurs pays, plus de pays entre eux.
Oui, vous racontez par exemple quelque chose d'extrêmement intéressant. Vous dites qu'il y a des couples, effectivement, qui structurent les flux migratoires. Il y a par exemple la Pologne et le Royaume-Uni, et la Roumanie et l'Espagne. Ces quatre pays-là forment des couples avec des flux particulièrement importants.
Oui, effectivement,
c'est quoi,
on remarque...
C'est des raisons culturelles ou c'est des raisons économiques ?
Alors, c'est difficile de répondre simplement. Au Royaume-Uni, effectivement, il n'y avait pas forcément des migrants polonais qui étaient déjà présents avant 2004. Donc, il y a eu un effet un peu de surprise et de rapidité de ces flux. Mais le Royaume-Uni a une place très particulière dans l'Union européenne, à savoir que c'est le pays de la langue anglaise. C'est le pays qui exerce une certaine domination économique et culturelle. Et donc, c'est aussi ce facteur-là qui a fait que beaucoup de jeunes polonais se sont dirigés vers le Royaume-Uni.
Pour le Royaume-Uni, on comprend, mais voilà. Pour la Roumanie et l'Espagne, alors ?
Alors, pour la Roumanie et l'Espagne, il y avait déjà une présence, en fait, migratoire depuis les années 90, liée à l'industrie du soin à la personne dans le sud de l'Europe, que ce soit en Espagne ou en Italie, qui recrutait déjà, en fait, dans les pays de l'Est, en particulier la Roumanie, aussi l'Ukraine, dont on a parlé tout à l'heure, la Bulgarie. Après, on peut aussi penser à la proximité linguistique, puisque le roumain, par exemple, est une langue latine. Mais bon, ça suffit pas non plus, puisque le bulgare n'est pas du tout une langue latine. Et pourtant, les Bulgares aussi se sont dirigés vers le sud de l'Europe. Donc, en fait, c'est une intrication de beaucoup de facteurs différents qui va expliquer que certains flux migratoires vont se former entre plusieurs pays. Et ensuite, une fois qu'ils sont établis, créer des ressources pour de nouvelles migrations.
Elmo Homewood.
En fait, oui, sur ce point-là, en réalité, je crois qu'il y a deux types de migrations, c'est-à-dire des migrations qui peuvent, de manière aisée, aller directement vers le pays cible. C'est en fait ce que l'on observe entre pays européens du noyau dur, en gros. Les diplômes sont reconnus, il n'y a pas... la langue anglaise, par exemple, évidemment, permet de le faire également. Donc là, pas de problème, on choisit un pays, si on est très qualifié, et si on a les bons diplômes qui sont bien reconnus, si on a la langue, les réseaux, etc., on peut aller directement vers le pays choisi. Mais s'agissant des pays qui sont rentrés plus tardivement dans l'espace de libre circulation européenne, la Bulgarie, la Roumanie, s'agissant également des pays qui ne sont pas membres, la Moldavie, l'Ukraine, etc., la problématique d'entrée directe vers les pays cibles est plus compliquée. Donc, nous avions fait des travaux là-dessus il y a déjà quelques années. Nous avions observé ce que l'on appelle le phénomène des migrations répétées, c'est-à-dire que les migrants qui ont des difficultés à entrer dans le marché du travail, qui répondrait à leurs qualifications et à leurs revenus, acceptent un détour par un pays transit, qui est le pays finalement dans lequel ils vont s'installer, accepter d'être déclassés, un pianiste moldave travailler comme ouvrier du bâtiment, etc. Et c'est ce que l'on observe aussi avec la Roumanie vers l'Espagne, et ensuite espérer obtenir un passeport de mobilité pour aller vers un pays qui est le pays ciblé initialement. Donc c'est l'immigration étant devenue compliquée, les coûts de mobilité se sont accrus, eh bien les migrants ont des stratégies également d'adaptation à cela et passent par des pays qui sont plus aisés en matière d'accueil. Et je vous rappelle que quand même l'Espagne, et durant la période de croissance des années 2000, durant ce boom immobilier, elle a recruté en une dizaine d'années 6 millions d'immigrés. C'était quelque chose d'absolument faramineux. Puis ça s'est arrêté net avec la crise des subprimes, mais c'était quand même un pays qui utilisait ses ambassades, le Portugal faisait la même chose, pour recruter dans les pays d'Europe centrale et orientale des migrants qui venaient, et ensuite ils étaient régularisés par les entreprises elles-mêmes qui demandaient à l'administration du travail la régularisation. C'est la raison pour laquelle on a ce type de couple également, Roumanie-Espagne, qui se sont constitués. On a aussi Ukraine-Portugal. Pourtant, Ukraine-Portugal, quel type de relations y a-t-il en termes de
l'Ukraine n'est pas dans l'espace Schengen.
L'espace Schengen, justement.
Et nous, on s'intéresse en particulier ce matin à la mobilité intra-européenne. J'évoquais tout à l'heure les motivations de ces migrants européens et on rappelait avec Aurore Flippo qu'il n'y a pas seulement des considérations économiques, mais il y en a aussi, évidemment. Dans votre ouvrage, El Mohoumohou, de l'immigration en France, vous dénoncez un poncif qui revient très régulièrement dans les débats, même un mythe, parce que c'est comme ça que vous les classez, celui selon lequel nous ne pouvons pas accueillir toute la misère du monde. Voilà une phrase qu'on entend extrêmement régulièrement. Et vous nous rappelez une chose intéressante, c'est que, en réalité, quand on regarde un peu de près les choses, plus un pays est pauvre, et moins il envoie de migrants en général, et en particulier, lorsqu'il en envoie, la grande majorité, en fait, ce sont des personnes qualifiées. Donc en fait, ce n'est pas la misère du monde qu'on nous envoie, que les pays les plus pauvres nous envoient.
Absolument, ça. C'est un résultat qui est complètement consensuel hein, chez les économistes, les démographes également, etc. Vous refaites les calculs tant que vous voulez, vous avez des taux d'émigration des pays pauvres qui sont très bas, des taux d'émigration des pays à revenus intermédiaires qui sont maximum, et puis quand vous devenez un pays plus riche, ben vous allez devenir un pays d'immigration, vous allez passer de statut d'émigration à immigration. C'est stable, ça marche très très bien. Et quand vous décomposez...
C'est vrai même en dehors de l'Europe.
Ah, c'est vrai en dehors de l'Europe, absolument. Et quand vous décomposez ce taux d'expatriation, donc en d'autres termes, les pays d'Afrique les plus pauvres envoient peu de migrants par rapport à leur population. Ceux qui envoient le plus de migrants, c'est les pays à revenus intermédiaires hauts, l'Inde, la Chine, etc. Ça, c'est maximum. Mais quand vous décomposez le taux d'expatriation par niveau de qualification, c'est-à-dire les diplômés du supérieur, les diplômés du secondaire et les primaires, ceux qui n'ont pas de qualification, vous observez quelque chose qui est complètement paradoxal, c'est que les pays pauvres envoient beaucoup de leurs très qualifiés.
La moyenne
des taux d'expatriation de qualifiés des pays pauvres, c'est à peu près 50%. Tandis que les pays à revenus intermédiaires, qui ont pourtant les taux d'expatriation globaux les plus élevés, envoient moins de 10% de leurs qualifiés. Ce qui est quand même assez intéressant, ça veut dire que les effets ensuite sur les pays d'origine sont différents selon qu'on a beaucoup de taux d'expatriation de qualifiés ou de manière raisonnable peu, comme c'est le cas pour l'Inde ou la Chine.
Justement, j'allais vous demander pour les pays d'origine, parce que c'est une très bonne nouvelle d'une certaine manière pour les pays d'accueil, mais quid de l'effet pour les pays d'origine? Ce processus d'intégration dans l'Union européenne, il a provoqué une émigration très forte dans ces pays d'Europe de l'Est. Et donc, en particulier, vous nous le dites, pour les travailleurs qualifiés, il y a eu un rapport du FMI assez récent, de 2016, qui évoquait le départ de 20 millions de professionnels qualifiés partis au cours des 25 dernières années. On imagine que ces départs ont eu un coût économique considérable. Est-ce qu'on peut mesurer ce manque à gagner, l'effet, finalement, de cette fuite des cerveaux? Parce que c'est de ça dont il est question.
Bah, si vous voulez... L'effet de la fuite des cerveaux est maintenant bien documenté, en particulier par les économistes. On est passé d'une vision pessimiste qui était de dire les gens qui sont qualifiés et qui partent vont constituer une perte pour leur pays d'origine. Et dans ce cas-là, d'ailleurs, Bhagwati, à son temps, en 1974, proposait une taxe sur la fuite des cerveaux payée par les migrants qualifiés qui partaient pour compenser cette perte. Parce qu'en fait, la fuite des cerveaux, c'est aussi une externalité négative, pour parler comme économiste, pour le pays de départ. En réalité, on a une vision maintenant beaucoup plus pragmatique. Parce qu'en fait, on sait qu'il y a un certain nombre de pays pour lesquels le seuil de taux d'expatriation est faible, donc moins de 10%. Et pour cela, il y a un gain, ce qu'on appelle le brain gain. Il y a un gain à la fuite des cerveaux. Et ce gain, il est lié à trois éléments. Un, les migrants qualifiés envoient de l'argent et permettent aux enfants, aux familles qui reçoivent donc de scolariser davantage les enfants. Deux, ils transfèrent des compétences, ils reviennent, l'effet Bangalore avec les Indiens qui reviennent massivement, etc. Trois, il y a un effet qui est tout à fait nouveau dans la littérature économique qu'on a observé ces dernières années, c'est que comme les coûts de mobilité, les coûts pour émigrer sont devenus très élevés, on a une sorte d'inversion de causalité. C'est-à-dire qu'avant, on émigrait pour aller augmenter le rendement de son capital humain, être mieux rémunéré, et là, en fait, comme la migration est devenue extrêmement compliquée, on investit dans l'éducation pour augmenter ses chances de partir. Donc il y a un effet d'incitation à s'éduquer. Et ces trois effets font ce qu'on appelle le gain à l'émigration. Donc tout le monde ne perd pas à l'émigration de qualifiés. Par contre, perdent...
Mais ça n'accroît pas forcément les inégalités, mais ça peut faire reculer paradoxalement les inégalités.
Mais perdent ceux pour lesquels le seuil dépasse 20, 20, 30%. Alors là, on est vraiment dans ce que j'appelle la trappe au sous-développement. Et donc, c'est ça qu'il faut regarder dans le cas de l'Union européenne. Il y a des pays qui ont gagné à la fuite des cerveaux parce qu'ensuite, ils sont revenus. Regardez, les Polonais sont revenus massivement aussi. Par exemple, si vous regardez les flux de retour, de baisse des qualifiés au Royaume-Uni, 38%, c'est pour les hautement qualifiés depuis le Brexit. Et ils sont retournés où ? Ils sont retournés en Pologne. Donc, il y a des effets de retour pour certains et des effets bénéfiques. Donc, c'est un argument qui est un faux argument qui est de dire c'est une perte sèche pour les pays de départ, donc il faut les empêcher de venir. Il faut peut-être réfléchir à autre chose. Il faut dire, comment on peut utiliser cette diaspora de qualifiés pour qu'elle serve le pays d'origine ? C'est ça la nouveauté, en fait, dans la nouvelle manière de penser les politiques migratoires.
Aurore Flipeau, je me tourne vers vous. Dans quelques instants, on va parler de cette question des travailleurs détachés qui est évidemment très importante. Il y a eu une révision de la directive, on s'en souvient. Et j'entends d'ici les auditeurs derrière leur poste qui se disent « mais ils ne parlent pas des travailleurs détachés ». On va y venir, mais dans un très court instant. Aurore Flipeau, d'abord, je voudrais qu'on regarde un tout petit peu les secteurs dans lesquels travaillent ces migrants européens. Et la question que je me pose en particulier, c'est est-ce que les secteurs vers lesquels se tournent ces travailleurs migrants européens sont les mêmes ou sont différents des secteurs dans lesquels on va retrouver classiquement les migrants extra-européens, Aurore Flipeau?
Alors, ils sont en grande partie similaires, mais pas totalement. On a une partie d'emplois qu'on va pouvoir appeler des emplois d'accueil, qui sont généralement pris par des personnes qui viennent d'arriver. Donc, c'est typiquement l'agriculture. Au moment de l'ouverture du marché britannique aux nouveaux entrants, c'était devenu un petit peu le stéréotype du migrant polonais, c'était le ramasseur d'asperges. Et puis en fait, très rapidement, parce que justement d'autres secteurs s'ouvraient à ces travailleurs, ils ont quitté l'agriculture. C'est également le cas en Espagne. Mais par contre, tout ce qui est secteur de hôtellerie, restauration, on les retrouve aussi beaucoup dans l'agroalimentaire, dans la transformation en fait de denrées agroalimentaires, dans les abattoirs, dans le transport, on en parlait tout à l'heure, dans la logistique, dans les grands entrepôts Amazon, notamment au Royaume-Uni. On retrouve beaucoup de travailleurs d'origine étrangère, alors beaucoup d'Européens, mais aussi d'autres origines.
Elmo Mouhoud.
Oui, sur les questions de ces travailleurs en libre circulation, vous avez à peu près, c'est intéressant à savoir, hein, c'est-à-dire que vous avez, sur les 4 millions de migrants qui ont bougé dans la zone OCDE, vous avez à peu près 2,5 millions qui ont bougé dans les zones de libre circulation. Et sur ces 2,5 millions qui ont bougé dans les zones de libre circulation, en particulier en Europe et dans la zone de libre-échange, vous en avez la moitié qui sont des travailleurs détachés, en gros. Des travailleurs qui ont bougé pour aller vers d'autres... l'essentiel étant dans la construction. C'est-à-dire que c'est quand même très sectorisé, tout ça. C'est le secteur de la construction et des transports. Et quand vous regardez les choses, alors on va reparler ensuite des travailleurs détachés et des problématiques que ça pose, mais l'erreur serait de penser que les flux sont toujours univoques, c'est-à-dire d'un pays A vers un pays B. En réalité, vous prenez la Pologne est un pourvoyeur de travailleurs détachés et reçoit des travailleurs détachés également. L'Allemagne est un pourvoyeur de travailleurs détachés, c'est le premier même, mais reçoit à peu près 200 000 travailleurs détachés. Donc c'est le premier pays d'accueil, mais c'est aussi un pays. Et la France, c'est pareil. La France envoie des travailleurs détachés et reçoit des travailleurs détachés. Donc cette circulation, en dehors des problématiques que posent des travailleurs détachés, de concurrence déloyale, etc., sur lesquelles on reviendra, les mouvements migratoires sont des mouvements qui ne sont pas du tout équivoques.
Sur l'Allemagne, par exemple, que vous évoquiez à l'instant, on sait que, par exemple, il y a beaucoup de Roumains qui travaillent dans l'industrie. En Allemagne, c'est vrai qu'il y a deux grandes figures du travailleur européen, mais en Allemagne, c'est celle du médecin qui travaille en Allemagne et celle de l'ouvrier. Est-ce qu'on a une idée de l'effet de cette capacité de main d'œuvre sur l'industrie allemande en particulier ? Je vais poser la question autrement. Est-ce que si l'industrie allemande se porte aussi bien aujourd'hui, c'est aussi parce qu'elle est en capacité d'aller puiser justement dans cette main-d'œuvre roumaine, notamment, mais cette main-d'œuvre qui vient d'Europe, qui vient de pays de l'espace Schengen.
Tout à fait. Un indicateur pour répondre à votre question. Les taux d'emploi des migrants intra-communautaires, c'est-à-dire intra-espace, en libre circulation, sont supérieurs de 5 points de pourcentage au taux d'emploi des natifs. Donc, en d'autres termes, ces travailleurs qui viennent là, en libre circulation, je parle pas des extra-communautaires, mais je parle de ceux qui sont à l'intérieur. Ils ont un taux d'emploi de 5 points supérieur. Ça veut dire qu'ils sont réellement demandés pour des secteurs spécifiques. Et donc, il y a un impact tout à fait positif. Et dans le cas de l'Allemagne, vous avez vu que l'Allemagne...
Pourquoi cette différence ?
Parce qu'il y a des problématiques de reconnaissance des diplômes, il y a des problématiques de langue qui sont réglées, il y a toute une série d'adaptations.
Et parce que aussi on les emploie sous des contrats d'usine, c'est comme ça qu'on appelle ça en Allemagne, c'est-à-dire c'est des contrats hors convention collective.
Plus en détachement, etc. Donc si on multiplie l'ensemble des éléments, on a cette meilleure. Mais puis aussi parce qu'en fait, si vous voulez, l'adéquation avec le marché du travail, elle est directe puisqu'on les demande pour cela. Donc l'effet est plutôt positif sur la croissance, surtout pour des pays comme l'Allemagne dans lesquels il y a des difficultés de recrutement majeures. Le taux de fécondité des femmes allemandes est de 1,3. Bon, bah, évidemment, ça se traduit par un vieillissement, mais aussi par des pénuries de main-d'œuvre sur le marché du travail. Les actifs sont moins nombreux qu'ils ne le seraient avec des taux de fécondité plus élevés.
Parlons maintenant des travailleurs détachés. Ce qu'on appelle un travailleur détaché, c'est un salarié envoyé par son employeur dans un autre État membre en vue d'y fournir un service à titre temporaire. C'est ça la définition pour les institutions européennes. Mai 2018, on s'en souvient, la directive sur le travail détaché est révisée. Elle avait été proposée par la Commission en 2016 et défendue avec beaucoup de vigueur par Emmanuel Macron, souvenez-vous.
C'est un projet qui vise à réduire le temps d'utilisation du travailleur détaché, les limiter à un an, à renforcer les contrôles et la possibilité des contrôles, à développer les contrôles et les coopérations en matière de contrôle sur le plan bilatéral, à avoir un principe 5 qui est à travail égal, rémunération égale, ce qui évite justement toute distorsion, et donc de permettre d'avoir une refonte en profondeur du système actuel.
Voilà donc Emmanuel Macron qui avait porté haut et fort cette réforme, qui avait obtenu gain de cause, en tout cas en partie, et il avait fait apparaître comme une véritable victoire politique. Peut-être qu'il va falloir nuancer les choses. Elmo Mohoud, je vais commencer avec vous, on va commencer par l'économiste, et ensuite on se tournera vers vous, Aurore Flippo, pour avoir un peu la vision de la sociologue sur cette réforme. Une réforme qui rentrera en application en 2020, qui vise donc à mieux protéger les travailleurs postés temporairement dans un autre État membre et à lutter contre le dumping social. Est-ce que vous pouvez nous rappeler en quelques mots, Elmo Mohoud, le contenu de cette réforme, et surtout les effets qu'on peut en attendre ?
En fait, moi, je pense que le contenu de la réforme est assez faible, finalement, parce que il y a 4 points, l'amélioration des conditions d'hébergement, l'allocation de remboursement, ça c'est un premier point, des frais de voyage, etc. Ça mange pas beaucoup de pain. Il y a un deuxième élément qui est remplacer à terme le principe actuel des travailleurs détachés, c'est que, en fait, normalement, on doit être soumis à rémunération au salaire minimum, au SMIG. Or, là, on décide d'étendre aller à la question de l'égalité de traitement en matière de rémunération, mais sans beaucoup de précision sur le paiement des cotisations sociales, qui est le vrai problème.
Ce qui veut dire, entre parenthèses, et je vous laisse poursuivre, que ça n'a de valeur, ce que vous venez de dire, que dans les pays qui ont un salaire minimum. Par exemple, pendant longtemps, en Allemagne, c'était pas le cas. C'est le cas maintenant.
Exactement.
Pendant longtemps, c'était pas le cas.
Voilà. Donc là, l'idée, c'est le traitement égal. Ce qui voudrait dire qu'on contournerait, sans demander à des pays qui n'ont pas de salaire minimum, d'un salaire minimum, on contournerait cette règle. Mais bon, vous voyez que ça va pas très loin. Ensuite, renforcer les droits des travailleurs et ne pas aller, ce que le disait au-delà de 12 mois, en fin de compte, pour les travailleurs détachés.
Tout donc, ceci, effet attendu très, très,
très, très faible. Modeste. Parce qu'en fait, très modeste. Pourquoi? Parce que, ce que montrent les travaux récents, hein, même une note du Trésor là-dessus, c'est que il n'y a pas de concurrence salariale sur les bas salaires, parce que vous savez qu'en France, les bas salaires sont très subventionnés. Il y a les CICE, il y a toute une série de choses qui font que les charges sociales sur les bas salaires sont faibles. Donc, quand un Roumain ou un Polonais vient en France travailler, s'il est rémunéré au niveau du SMIC, finalement, il sera plus cher qu'un travailleur français. Donc, la concurrence, c'est pas sur les très bas salaires que ça se pose. Par contre, à partir d'une fois et demi le SMIC, là, se pose un vrai problème, puisque les cotisations sociales continuent à être payées dans le pays d'origine. Donc, tant qu'on n'aura pas finalement réglé ce problème où les cotisations sociales devront être payées dans le pays d'accueil et non pas dans le pays d'origine, on gardera les distorsions à certains niveaux. Voilà.
Donc on est loin d'avoir tout réglé.
Voilà. Et puis, troisième point, c'est sur les conditions de travail. Le gros problème des travailleurs détachés, c'est qu'ils sont concentrés dans des secteurs peu régulés, les transports, la construction. Et là, le problème, c'est le fait que les règles existent. En fait, ça n'apporte rien de plus, cette amélioration. C'est simplement que les règles ne sont pas respectées du droit du travail. Par exemple, un travailleur en situation de détaché peut travailler deux fois plus que la règle qui l'autoriserait. Donc il faut des inspecteurs du travail. Il faut des gens qui fassent la chasse au contournement des règles du travail. Et pour ça, on en est toujours là. Donc pour moi, si vous voulez, l'avancée est absolument limitée.
Aurore Flipeau, quelque chose à ajouter sur ce point? Finalement, une avancée très très limitée, ça n'aura pas beaucoup d'effet?
Oui, eh bien, je rejoins mon collègue sur la question du contrôle effectif, en fait, parce que les lois, c'est une chose, mais si ensuite il n'y a pas de moyens dans l'inspection du travail pour venir voir ce qui se passe, évidemment, ça va pas beaucoup changer de choses. Et effectivement, on est là dans des secteurs qui sont extrêmement dérégulés, le transport et la construction, qui sont organisés de manière transnationale, avec une flexibilité, une précarité qui est vraiment très forte pour les travailleurs. Aussi des problèmes de sécurité au travail, d'accidents du travail, parce qu'on est dans le cadre d'un système très complexe, avec de la sous-traitance en cascade, des sociétés écrans. Il y a aussi une dimension d'optimisation fiscale, donc il y a une mobilité du capital et une mobilité du travail. Et tout ça, effectivement, est assez compliqué, mais il faut bien vouloir, entre guillemets, mettre le nez dedans pour savoir ce qui s'y passe. Il ne suffit pas, évidemment, de faire une loi comme celle-ci.
Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire, justement, pour que les choses changent? Parce que si on se positionne sur... En gros, je vais faire schématiquement, mais les pays de l'Europe de l'Ouest disent que c'était une réforme indispensable et qu'il faut aller vers plus d'égalité et qu'il faut défendre ce principe de salaire égal à travail égal dans des conditions équivalentes. Si je me place du côté des pays d'Europe de l'Est, on va dire que tout cela, c'est du protectionnisme déguisé et que il faut accepter la souplesse et l'égalité face à l'accès à ce marché du travail qui se veut unique en Europe. Alors, comment régler le problème, finalement? Allez, on va demander à l'économiste, Elmo Homo.
Non, mais pour moi, c'est simple, si vous voulez.
Si c'est pas si simple. Sinon, on arrivera à se mettre d'accord. C'est pas le cas.
Je fais cette proposition.
Oui, vous faites une proposition.
Vous diluez les travailleurs détachés dans la libre circulation. C'est-à-dire que si vous ne faites plus cette distorsion qui consiste à faire payer les cotisations sociales dans le pays d'origine, vous appliquez tout simplement les règles du pays d'accueil, point. Et dans ce cas-là, il n'y a plus de distorsion, ça devient du commerce, des migrations intra-firmes, intra-entreprises, ce qui est d'ailleurs très important, c'est ça qui se développe le plus, c'est les mouvements à l'intérieur des entreprises. Dans ce cas-là, il n'y aura plus tellement de différence entre les travailleurs détachés et les travailleurs en libre circulation. Ça, c'est la première chose. À court terme, on pourrait faire ça. Bien sûr, à long terme, ça signifie revenir sur la manière dont l'Europe a été construite. En effet, on a fait un pari qui est gigantesque, qui est que on pouvait réussir une convergence entre les pays sur les grandeurs macroéconomiques, les critères de Maastricht, et que ça ferait venir une convergence structurelle des structures économiques. La convergence des structures économiques prend du temps. Il y a eu même une divergence certaine entre certains pays. Et donc, au fond, la question de l'unification du marché du travail et des normes du marché du travail, c'est une question qui se pose à moyen terme, de toute façon, si on veut rester. Mais il y a une solution de court terme qui pourrait aller plus loin que les quatre propositions de modifications mineures qui ont été proposées. Là.
Je dis que c'est pas simple parce que faut rappeler quand même qu'au départ le secteur routier devait faire partie de la réforme que finalement il y a échappé.
Absolument.
Et que aujourd'hui le Parlement européen ne parvient pas à dégager de compromis précisément sur l'application du détachement pour les chauffeurs routiers. Aurore Flipot, encore peut-être un tout petit mot sur ce point avant de retrouver un nouvel invité. Sur comment on fait finalement pour sortir de cette opposition qu'on n'arrive pas à régler.
Bien, oui, effectivement, on est dans une situation où il y a un rapport de force aussi entre les secteurs industriels et les différents États membres. Et ça, c'est aussi partie prenante de l'histoire de la libre circulation des travailleurs depuis le début de l'Union européenne. Ça a toujours été quelque chose de conflictuel. Ça a toujours été aussi quelque chose de tendu entre certains qui voyaient un intérêt économique majeur et d'autres qui voyaient une source de potentiel de dumping social. Évidemment, la question de l'harmonisation à terme est évidemment une vraie question, puisque le fait de payer ses charges dans un pays ou dans un autre peut avoir aussi des répercussions assez fortes, bien tout simplement sur les systèmes de protection sociale des pays d'origine de ces travailleurs.
Alors, face aux incertitudes sur le marché du travail et face à la concurrence entre les différents États membres, les appels se multiplient pour davantage de régulation et protection de la part des instances européennes. Juin 2018, la ministre des Finances allemande appelait à la création d'un système d'assurance chômage européen, non pas pour se substituer, mais pour renforcer les systèmes nationaux. Frank van der Broek est un ancien ministre du Travail et des Affaires sociales de Belgique et actuellement professeur à l'université d'Amsterdam. Il a mené avec une équipe de chercheurs une enquête d'opinion au niveau européen pour connaître le soutien de l'opinion publique à cette idée d'un partage des risques du chômage. Frank van der Broek était à Paris lundi soir pour présenter son étude. On en a profité pour lui demander en quoi consisterait ce système d'assurance chômage au niveau européen. Il est au micro de Mélanie Chalandon. Frank van der Broek.
Je crois qu'il faut d'abord peut-être rappeler que traditionnellement, les États-providence nationaux dispose de stabilisateurs qui sont vraiment des stabilisateurs automatiques en cas de choc économique et notamment les systèmes de chômage. Et donc l'argument, c'est que une union monétaire a besoin de mécanismes complémentaires qui peuvent ou bien compléter ou bien renforcer ou soutenir ces instruments traditionnels des États-providence, traditionnels au niveau national. Évidemment, une première idée, c'est d'organiser une assurance, une vraie assurance chômage européenne, donc vraiment un système d'allocation chômage européen. Ça semble fort compliqué, à vrai dire, parce que les réalités sociales, les réalités des marchés de l'emploi sont fort différentes au niveau européen. Une deuxième idée est une idée un peu différente. L'idée est de dire, si un État membre est affecté par un choc économique important, alors un fonds européen, une action collective européenne, viendrait au soutien de cet État et organiserait, je dirais, une certaine subvention du système national d'assurance chômage. Ça, l'on appelle une réassurance. C'est un peu comme vous avez votre assureur, hein, contre l'incendie pour votre voiture, etc. Mais votre assureur, lui-même, il est réassuré par une autre entreprise, hein, contre des chocs vraiment graves. Et donc l'idée d'une réassurance, c'est l'idée que si un pays est dans le besoin, on organise un soutien européen, soutien qui est destiné notamment à rendre possible que des allocations chômage adéquates continuent à être versées. Toutes ces idées ont un noyau dur commun, un principe commun, c'est que le risque de choc économique, un risque qui se matérialise en un chômage important, est en partie partagé, est en partie mutualisé au niveau de l'Union européenne. Donc, on peut dire encore en d'autres mots que l'union monétaire deviendrait dans un certain sens, dans une certaine mesure et d'une certaine façon, une union d'assurance et de protection.
La nouveauté aujourd'hui, c'est que vous avez mené une enquête auprès de l'opinion publique européenne pour savoir comment serait prise une telle idée, notamment de solidarité entre les différents États et entre les différents peuples européens. Est-ce que l'opinion publique serait favorable à un tel système d'assurance chômage au niveau européen ?
Oui, il est vrai qu'il y a eu énormément de débats sur les formules précises, mais jamais on a testé l'opinion publique. Et donc, la question clé qui n'est pas résolue jusqu'ici, c'est est-ce que les Européens, est-ce que les citoyens européens sont prêts à partager les risques liés au chômage, notamment quand le chômage touche d'autres pays? Et dans les débats politiques, on a souvent le sentiment que c'est impossible. Il y a beaucoup de commentateurs, beaucoup d'acteurs politiques qui disent « Oui, mais c'est rêvé, c'est impossible, les Européens ne veulent pas ça parce que cela va engendrer des transferts monétaires d'un pays à l'autre. » Et ça, les Européens ne veulent pas. Eh bien, notre enquête qui a été organisée en 13 pays, et donc on a quand même presque 20 000 répondants, qui ont réagi sur base de formules très précises avec toute une série de variantes, notre enquête montre que l'opposition fondamentale à une telle idée est assez limitée. Disons que la grande moitié ou la grande majorité des répondants trouvent que quand même une ou deux ou trois formules sont intéressantes. Et je dirais même plus, ce qu'on voit dans l'enquête, c'est que dans tous les pays que l'on a sondés, dans tous les pays, il y a potentiellement des majorités dans l'opinion publique pour des formules précises. Mais ça dépend fortement de la concrétisation de la formule. Je dirais le diable est dans le détail. La question n'est pas est-ce que les gens sont contre la solidarité par principe. La question pertinente, c'est sur base de quelle modalité précise est-ce que les gens seraient prêts à organiser la solidarité européenne.
Est-ce que vous pensez que cette mesure d'assurance chômage pourrait être le prémisse ou peut-être le premier pas vers une sorte d'État-providence européen ?
Personnellement, je ne crois pas que la perspective, c'est de créer un État-providence européen. Je crois que l'Union européenne devrait un jour devenir une vraie union sociale, c'est-à-dire une union d'États-providence nationaux. Donc l'idée n'est pas de remplacer les États-providence nationaux. Je crois que ce n'est ni faisable ni désirable. Mais l'idée, c'est de créer un contexte, un environnement de soutien, d'appui qui facilite et qui renforce les États-providence nationaux. Et donc, je crois en effet que si l'un jour l'union monétaire serait complétée d'un tel mécanisme, serait un pas très important dans la création d'une vraie union sociale européenne.
Aujourd'hui, la question de l'emploi, du travail, mais aussi du chômage en Europe, elle se caractérise en partie par de la concurrence, voire des phénomènes de dumping social. Est-ce que vous pensez qu'une initiative comme celle-là pourrait aller dans le sens d'atténuer ces phénomènes de concurrence entre les différents États européens ?
Quand on parle du dumping social, évidemment, on songe immédiatement à tous les débats sur le détachement des travailleurs et la régulation du détachement, la problématique du salaire minimum et de sa couverture dans les États membres, etc. Mais il y a quand même un lien. Le lien est le suivant. Si un pays est touché par une crise grave, s'il n'y a pas de protection adéquate qui fonctionne, et notamment s'il n'y a pas un système assurance décent qui fonctionne, évidemment, les victimes de la crise sont forcées d'accepter n'importe quoi ou de chercher une solution dans la migration. Et dans la mesure où les systèmes de protection nationaux fonctionnent bien, évidemment, on va aussi quand même modérer, on va tempérer aussi l'effet social négatif, la pression sur les chômeurs d'accepter n'importe quoi. Une pression énorme sur la migration. La migration peut être une partie de la solution. Évidemment, je crois que au moment où l'Italie ou l'Espagne étaient touchées énormément par la crise, je crois qu'il était bon que des jeunes Italiens, des jeunes Espagnols pouvaient chercher un emploi chez nous. C'était bon. Mais ça ne peut pas être la seule solution parce que c'est quand même une solution qui met un peu de la pression. Et donc, je crois que dans la mesure où les systèmes nationaux de protection sociale et notamment les systèmes nationaux d'assurance chômage fonctionnent bien, il y a un peu un buffer, un amortisseur contre le dumping social en cas de crise. Et donc, c'est aussi peut-être une raison pour les pays les plus performants comme l'Allemagne, comme les Pays-Bas, pour soutenir cette idée. Ce n'est pas seulement l'intérêt de pays pauvres ou de pays qui sont mal équipés au niveau social, c'est aussi dans l'intérêt d'autres pays de créer de telles solidarités.
Franck Vanderbroek au micro de Mélanie Chalandon. Franck Vanderbroek qui est ancien ministre du Travail belge, professeur à l'université d'Amsterdam, mais aussi conseiller à l'Institut Jacques Delors. Réaction, El Mohamoud, sur cette idée d'une assurance chômage au niveau européen qui pourrait peut-être permettre de faire émerger une Europe sociale.
Oui, je crois que c'est une bonne idée. Alors, on n'a pas le temps de préciser exactement le débat, mais c'est vrai que l'Europe, jusqu'à présent, est vue davantage comme une zone dans laquelle les mécanismes de coordination passe par plutôt le respect des critères prudentiels, ne pas faire ceci, ne pas faire cela. Il y a quand même assez peu de choses qui sont communes, à part la politique agricole commune, la politique régionale de transfert vers les régions pauvres en fonction du revenu par tête de ces régions et la politique monétaire. Le reste, c'est plutôt de la coordination entre pays et de ce qu'on appelle la coordination ouverte et un principe de ne pas faire ceci ou ne pas faire cela. Donc là, il y aurait quelque chose qui serait de l'ordre de la mutualisation des risques de chômage au niveau européen, ce qui me semble une tout à fait bonne idée. Le problème étant que il faudrait aller encore évidemment un peu plus loin, puisqu'il faudrait aller plus loin, ça ne suffirait pas d'une certaine manière de faire juste de la protection mutualisée des travailleurs lorsqu'ils sont au chômage. Il existe au niveau européen le fonds d'ajustement de la mondialisation qui avait à peu près la même idée, qui est inspiré du fonds Kennedy au début des années 60. Kennedy avait eu l'idée justement de mettre en place un fonds pour venir en appui et sauver les personnes vulnérables, victimes de la mondialisation. Au niveau européen, on a ce fonds. Je pense qu'il y aurait matière à abonder davantage ce fonds et à en faire un instrument précisément à la fois de protection des vulnérabilités face aux différents types de chocs et aussi de protection liée au chômage. Donc il y a déjà des mécanismes sur lesquels on peut s'appuyer. Il y a des outils, voilà.
Merci à nos deux invités, Aurore Flipeau qui était en duplex de Valence. Je remercie d'ailleurs les techniciens qui ont permis de faire la liaison. Je rappelle que vous êtes auteur notamment de Génération Low Cost, itinéraire de jeunes migrants intra-européens qui était paru aux presses universitaires de Rennes. Un grand merci également à vous, El Mohamoud, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappellerai vous concernant l'immigration en France qui était paru chez Fayard. Get Back des Beatles, évidemment. C'est intéressant parce que cette chanson, elle était au départ censée dénoncer, parler en tout cas de la situation des Pakistanais au Royaume-Uni, stigmatisée dans des discours xénophobes. Le but, c'était de se moquer un peu de ceux qui considéraient que les immigrés prenaient le travail des Britanniques et donc ils devaient rentrer chez eux, d'où le Get Back. Mais même si les Anglais sont connus pour leur second degré, finalement, les Beatles ont préféré laisser de côté ce message de peur qu'il soit mal compris. Donc, ils ont abandonné l'idée et d'encourager, en tout cas dans les textes, ces Pakistanais à rentrer chez eux. Et puis j'indique d'ailleurs pour les fans des Beatles que le premier enregistrement de Get Back, c'était exactement il y a 50 ans, c'était le 23 janvier 1969. Allez, 11h53, l'heure de retrouver Brice Couturier et son tour du monde des idées.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Depuis le début de la semaine, vous parlez de l'assassinat du maire de Gdańsk qui a provoqué un examen de conscience dans la classe politique polonaise. La violence verbale n'est-elle pas responsable de la violence politique, Brice?
Encore une fois, cette polarisation ne touche pas que la Pologne. Après tout, la haine entre les pros et les anti-Trump vaut bien celle qui sépare la Pologne de Kaczynski de celle des libéraux de Donald Tusk. Et dans la paisible et civile Angleterre, Brexiteurs et anti-Brexiteurs nourrissent des haines tout aussi farouches. Mais c'est précisément la montée simultanée des antagonismes politiques virulents dans tout l'Occident démocratique qui est de nature à inquiéter. Pourtant, il faut savoir raison garder. L'Europe de notre époque connaît certes des tensions, mais nous sommes très loin du climat de guerre civile rampante qu'ont connu plusieurs de nos pays dans les années 30. Durant la seule année 1932, celle qui précède l'accession de Hitler à la chancellerie, les violences politiques en Allemagne avaient fait plus de 100 morts. Par bonheur, on en est loin dans l'Europe d'aujourd'hui. Reste que cette montée de la violence verbale, encouragée par les réseaux sociaux, la diabolisation de l'adversaire politique, débouche à présent sur des passages à l'acte. Alors le philosophe polonais Andrzej Leder résume les choses ainsi en une phrase. Ceux qui se sentent victimisés ont un cœur de pierre. Et Sławomir Sierakowski commente en ces termes. Si une société comporte suffisamment de gens qui se perçoivent eux-mêmes comme victimes, de quelque façon que ce soit, la réaction générale au malheur des autres va tendre non pas à l'empathie, mais à la haine. L'instinct dicte que la sympathie est une ressource rare et qu'elle doit être réservée aux siens et non pas dilapidée pour des rivaux. C'est comme si la société était bloquée dans un état de compétition entre les souffrances entrées en compétition les unes avec les autres. Bref, la thèse de la concurrence entre les victimes que nous connaissons bien en Europe de l'Ouest. Mais le PiS, le parti droit et justice au pouvoir en Pologne, se présente précisément comme le parti des victimes de la modernisation accélérée de la Pologne. C'est le parti des petites villes et des villages en déshérence.
Et alors Brice, où en est l'opposition polonaise?
L'opposition au PiS n'est pas en grande forme. Les élections locales d'octobre dernier ont démontré que la base électorale du parti conservateur et souverainiste, donc le PiS droit et justice, conserve une base électorale solide. En outre, il ne cesse de grignoter l'électorat du parti paysan. Il doit ses succès relatifs à une politique sociale et notamment familiale très généreuse. Droit et justice a gagné de nouveaux parlements provinciaux. Le gouvernement peut se targuer d'une politique sociale plus redistributrice qui n'a pas affecté la croissance. Celle-ci demeure solide comme au temps où le pays était gouverné par les libéraux de Donald Tusk, la fameuse plateforme civique. Mais le PiS doit surtout ses succès à la faiblesse de l'opposition. Celle-ci est en effet divisée en deux partis qui se ressemblent beaucoup, la plateforme civique en question et puis un parti nouveau qui s'appelle Modernité. Et depuis le départ de son leader, Donald Tusk, pour Bruxelles, où il préside le Conseil européen, je le précise, la plateforme civique manque de leaders crédibles. Bronisław Komorowski, qui avait été élu président de la République en 2010, a manqué cruellement de charisme à ce poste. Il a été battu aux élections de 2015 par le candidat du PiS, Andrzej Duda. Quant à Grzegorz Schetyna, l'ancien président de l'Assemblée nationale, il est devenu président de la plateforme civique en janvier 2016, mais suite à des manœuvres d'appareil. Sa cote de popularité est basse. Il passe pour un professionnel de la politique, un pur produit du système. Alors l'autre parti d'opposition, vous me direz Modernité, qui a été fondée par un économiste, Richard Petrou. Il regroupe l'électorat lassé de la gestion passée de la plateforme civique. Son image de technocrate, à Petrou, compétent, a été abîmée par sa gestion désastreuse des finances de son propre parti. Et en outre, les médias l'ont coincé dans une affaire de liaison amoureuse extra-conjugale. Et du coup, il a été expulsé de son propre parti et s'en est allé créer un nouveau qui s'appelle le Cercle des libéraux sociaux. Le parti de la Pologne moderne, lui, maintenant, est toujours là, mais il est dirigé par Katarzyna Lubnauer, qui est une mathématicienne. Mais ce qui est frappant en Pologne, c'est la disparition complète de la gauche au Parlement. Certes, dans toute l'Europe, les partis de gauche connaissent une baisse préoccupante, mais en Pologne, le phénomène a atteint son point culminant parce que les partis de gauche ont simplement fondu, ils ont disparu. Quant au vieux rocker populiste et conservateur Paweł Kukiz, qui avait remporté un score étonnant de 20% aux élections présidentielles de 2015, pour l'instant, il paraît dans les choux. Il n'y a pas beaucoup de place à droite où droit et justice occupent en effet toutes les cases de l'échiquier. Non, les seules surprises susceptibles d'empêcher la droite de conserver le pouvoir à Varsovie, elles pourraient venir soit d'un retour de Donald Tusk, soit d'un nouveau venu, sans aucune affiliation politique, mais bourré d'ambition et très populaire, c'est Robert Biedron, qui est un homosexuel affiché et qui est le maire de Słupsk.
Merci beaucoup, cher Brice Couturier. On continuera sur la Pologne demain. Eh bien, rendez-vous demain. Dans un très court instant, on retrouve Olivia Gesbert et la Grande Table.